L'Hebdo Région, Thomas Cochebret sur RCF et Radio Fidélité.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre magazine d'actualité régionale. La région des Pays de la Loire qui a décidé d'augmenter les tarifs des transports en commun régionaux. L'idée de compenser l'inflation en demandant un effort financier aux Ligériens. Ce n'est pas la bonne solution, selon l'opposition de gauche et écologiste. Nous verrons pourquoi dès le début de ce magazine. Rencontre ensuite avec Carlos Muñoz, le président de la compagnie aérienne Volotea, première compagnie sur l'aéroport de Nantes-Atlantique. Et puis à l'occasion de la semaine de l'emploi pour les personnes handicapées, nous verrons qu'il existe encore des freins ou bien des réticences chez les chefs d'entreprise pour embaucher des personnes handicapées malgré l'obligation légale. C'est pourquoi en Vendée, une vingtaine d'entre eux sont allés visiter un ESAT et aller à la rencontre de ceux qui y travaillent. Initiative originale ensuite, émanant de nos confrères de Radio Fidélité Mayenne qui pour leur radiodon ont proposé à leurs amis, auditeurs et donateurs de prier pour la radio, ses salariés et ses bénévoles lors d'une nuit d'adoration. Et puis enfin, direction Le Mans, où le cercle généalogique du Maine et Perche fête ses 50 ans les 19 et 20 novembre. 32 cercles généalogiques français participent à ce salon. Voilà donc pour la programmation de cette Hebdo Région qui vous est présentée par la rédaction de RCF Anjou en collaboration avec les autres rédactions des radios chrétiennes des Pays de la Loire.
L'Hebdo Région, l'actu de la semaine.
L'actualité de la semaine, c'est donc cette passe d'armes au Conseil régional entre majorité et opposition concernant la hausse des tarifs des transports régionaux. Et pour faire le point sur le sujet, Florian Perret de RCF Anjou nous a rejoint. Bonjour Florian.
Bonjour Thomas.
Alors Florian, c'est l'annonce faite par Roch Brancourt, le vice-président au Conseil régional, qui a mis le feu aux poudres.
Et ouais, effectivement Thomas, Roch Brancourt a annoncé l'augmentation des tarifs 2023 concernant les transports gérés par la région il y a quelques jours. Concrètement, l'an prochain, un abonnement annuel au transport scolaire va augmenter de 4 euros par mois. Même chose pour les abonnements TER, donc les trains express régionaux. Le prix des billets unitaires des TER vont même progresser de 6%, car le Conseil régional doit faire face à une augmentation de ses dépenses de 15 millions d'euros cette année, 15 millions également l'an prochain. Conséquence, selon lui, des augmentations de salaire et de la flambée également des coûts de l'énergie. L'augmentation, la moins mauvaise décision à prendre pour Roch Brancourt.
Je suis convaincu que c'est la moins mauvaise décision parce que notre transport public et nos transports régionaux sont quand même relativement peu coûteux quand on est abonné ou quand on utilise ces modes de transport même de manière plus occasionnelle. Ils permettent aussi un bon fonctionnement, un bon aménagement de notre territoire, donc c'est important de les préserver. Mais on connaît des augmentations des coûts de l'énergie et puis aussi une évolution très forte des salaires dans le domaine du transport. Et donc, il faut pouvoir y faire face. Pour financer l'année prochaine et les années suivantes la facture, comment est-ce qu'on fait ? Soit on réduit les circulations, soit on augmente une partie des tarifs, c'est ce que nous allons faire, mais on le fait de manière la plus modérée possible et pour y faire face.
Et Florian, cet avis, on l'a compris, n'est pas partagé par l'opposition régionale.
Ah oui, pour Claire Schetzer, par exemple, élue insoumise à la région, conseillère municipale à Angers également, la solution pour ne pas impacter le budget des Ligériens, c'est surtout de faire pression sur l'État.
Lors du dernier conseil régional, on a fait une proposition de vœux sur la taxation des super-profits. Il faut que les différents conseils régionaux qui sont en charge des transports jouent des coudes pour que le gouvernement aille chercher des ressources financières. Elles existent. Il y a plusieurs milliards qui peuvent être trouvés ainsi pour justement redistribuer ces super profits et éviter que ce soit finalement à ceux qui n'ont pas les moyens de supporter le coût de la crise. Faut juste savoir que les remises à la pompe, c'était très bien pour les personnes qui étaient sans ressources, mais les remises à la pompe qui ont été faites là ces derniers mois, elles sont sans condition de ressources. Et c'est un coût de 7,5 milliards d'euros. Donc quand on cherche 30 millions d'euros, on a très souvent apparemment le ministre de l'économie au téléphone pour lui dire quelles sont les difficultés de la collectivité région. Et je pense qu'on peut lui dire aussi, va me chercher de l'argent en fait, parce qu'il y a de l'argent, il y a des ressources, il y a des entreprises qui ont fait d'importants profits, on peut aller trouver des ressources financières. Comment font les Allemands du coup pour financer un ticket mobilité à 49 euros illimité pour tous les habitants qui peuvent utiliser les transports en commun partout pour 49 euros par mois? Comment ils font ? Ils ont la même crise énergétique face à eux et pourtant, ils se donnent les moyens politiques d'aller chercher les ressources et aussi de faire un effort supplémentaire sur ce sujet.
Claire Schweitzer qui, dans le même temps, a demandé la gratuité des transports pour certaines catégories de personnes comme les jeunes ou bien les personnes précaires.
Eh oui, là, Thomas, il n'en fallait pas plus pour faire sortir Roch Brancourt de ses gonds.
Bon, d'abord, la gratuité, ça n'existe pas. C'est un mensonge, c'est de la démagogie. Il y a toujours quelqu'un qui paye, ça c'est la première chose. Et moi j'estime, nous estimons que quand on utilise un service, y compris un service public, c'est normal qu'on en paye une partie. Je rappelle que les transports publics, transports en commun, restent très fortement subventionnés dans notre région. Hein. Ça va de 70 à 90% de subventions suivant les modes de transport. Et enfin, je voudrais dire que pour les personnes qui sont dans des situations très fragiles sur le plan économique ou pour les jeunes, il y a des tarifs adaptés, il y a des réductions. Donc il y a déjà une tarification qui permet aux plus modestes ou aux plus jeunes d'accéder à nos transports. Donc pour moi, c'est vraiment de la démagogie et c'est du dogmatisme de faire croire aux gens que les choses peuvent être gratuites dans ce monde.
Pour la région, ces augmentations devraient représenter une augmentation justement de recettes de 8 millions d'euros en année pleine. Le Conseil régional des Pays de la Loire s'est également engagé à renouveler sa flotte de cars avec des motorisations alternatives, c'est-à-dire à l'électrique ou GNV.
Florian Perret pour RCF Anjou. Merci beaucoup Florian. Et puis toujours dans l'actualité du Conseil régional, autre motif de différend entre majorité et opposition, mais cette fois-ci au détriment des écoles ligériennes du réseau Espérance Banlieue. La gauche écologiste se félicite que la majorité ait baissé sa subvention à ces deux écoles hors contrat, œuvrant dans les quartiers difficiles du Mans et d'Angers. De 50 000 euros, cette subvention est tombée à 13 810 euros, dénoncée par la gauche au préfet de région, qui avait rappelé donc l'interdiction pour une région de subventionner des écoles hors contrat. La majorité régionale s'est vue obligée de se conformer aux recommandations du préfet en ciblant son soutien uniquement à l'aide sociale. La majorité qui se dit aussi surprise de voir la gauche et les écologistes mettre autant d'énergie à s'attaquer à des familles modestes, aux travailleurs sociaux et aux mécènes engagés dans cette démarche par pure idéologie. Fin de citation. Toujours dans l'actualité régionale, la Vendéenne Victoria de Vigneral, 38 ans, est la nouvelle présidente du groupe Rassemblement National au Conseil régional. Les élus du groupe l'ont désignée à l'unanimité. Elle succède à Hervé Juvin, qui a été condamné en appel à 10 000 euros d'amende pour des violences sur son épouse. Hervé Juvin reste au Conseil régional, mais il siégera en non-inscrit. La ville de La Roche-sur-Yon rendra hommage à Jacques Auxiette le 11 décembre. La grande salle du manège, Esplanade Gianni Mazurel, sera baptisée à son nom au cours d'une cérémonie qui débutera à 18h et qui sera orchestrée par le metteur en scène lyonnais Laurent Bretomme. Je vous rappelle que Jacques Auxiette, maire de La Roche-sur-Yon de 1977 à 2004 et également président du Conseil régional des Pays de la Loire de 2004 à 2015, est décédé le 10 décembre 2021. Le RSA sous condition d'activité. Le gouvernement l'a pensé, la Mayenne veut le faire. C'est en tout cas le sens de la déclaration qu'a fait son président du conseil départemental, Olivier Richefou. 3 400 Mayennais vivent du RSA, soit 1,11% de la population mayennaise. L'idée est de conditionner le versement de la modeste allocation à la présence d'une vingtaine d'heures au service du bien commun. Les contours de ce dispositif sont encore assez flous, mais à ce jour, une quarantaine de départements se sont portés volontaires, mais seulement 10 pourront se lancer dès le 1er janvier 2023.
L'Hebdo-Région rencontre avec.
Désenclaver les territoires, une ambition que portent tous les acteurs politiques, que ce soit pour faire vivre l'économie de nos entreprises locales ou bien le tourisme. Un concept qu'a bien saisi il y a 10 ans de cela un entrepreneur espagnol, Carlos Muñoz, aujourd'hui à la tête de la compagnie aérienne Volotea. Et ce chef d'entreprise, vous l'avez rencontré, Simon Marty, pour Fidélité Nantes. Bonjour Simon.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
Carlos Muñoz était de passage à Nantes. Dans quel cadre est-il venu dans la cité des Ducs de Bretagne ?
Eh bien, vous l'ignoriez peut-être, Thomas, mais Volotea et Nantes, c'est une histoire un peu particulière. L'aéroport de Nantes Atlantique a été la première base française de la compagnie espagnole. Nantes, c'est aussi pile le type de ville que la compagnie souhaitait raccorder à d'autres cités européennes, comme nous l'a confié Carlos Muñoz.
Je crois qu'il y avait une possibilité très forte, un intérêt très fort, un potentiel très élevé, de connecter des villes Nantes, des villes comme Nantes, avec des autres villes similaires. Et au jour d'aujourd'hui, oui, pour prendre vos mots, vous l'appelez un pari gagnant, oui, il y avait besoin parce que 10 ans plus tard, depuis Nantes, 46 villes, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, on vient d'annoncer encore Copenhague, Florence, Catan, Bergam, Milan, etc. Et d'un côté, de l'autre, dans l'ensemble du réseau, on a lancé 400 routes, parmi lesquels 250 n'existaient pas avant. Donc quand on met Nantes-Ajaccio, Nantes-Perpignan ou Nantes-Catan, en substitution d'une connexion à Paris, à Lyon ou à Rome, ça a une valeur assez importante pour les deux territoires, pas seulement Nantes, mais aussi Sicile, pour dire si on parle Catan, non, ou Tuscany, si on parle Florence. Et d'où, de ce point de vue, je crois qu'il y avait besoin, on a la bonne chance d'avoir cru, si vous voulez, à cette stratégie et opportunité, et 10 ans plus plus tard, oui, je crois qu'il avait besoin d'avoir une compagnie comme Volotea.
Une stratégie, une opportunité qui s'est avérée payante pour la compagnie espagnole. Aujourd'hui, elle réalise plus de 60% de son activité en France. Elle vient, par exemple, de reprendre la délégation de service public sur la ligne entre Lourdes et Paris, en lieu et place d'Air France, signe que la compagnie se diversifie de plus en plus au cœur de nos territoires.
Et Simon, à Nantes, Volotea est aussi pointé du doigt.
Oui, c'est vrai. Nantes Atlantique est accolée à la ville et les appareils au décollage et à l'atterrissage sont obligés de survoler Nantes, occasionnant une vraie nuisance sonore. Pour amoindrir le bruit et rendre de la tranquillité aux riverains, surtout la nuit, un couvre-feu entre minuit et 6 heures a été instauré. Mais voilà, à de nombreuses reprises, les avions de Volotea l'ont violé. Mea culpa, dit Carlos Munoz, qui explique que certains retards entraînant ces arrivées nocturnes sont surtout dus à des problèmes de régulation du trafic aérien ou à la météo. Mais le patron de Volotea s'engage à y remédier en faisant arriver ces avions plus tôt dans la soirée. L'an prochain, sur les 400 vols hebdomadaires, seuls 3 arriveront après 23 heures, comme l'a confié le chef d'entreprise.
Au propos des couvre-feux, Volotea a toujours l'intention de faire chaque chose pour que ça reste vraiment exceptionnel, qu'on puisse compter vraiment presque aucun délai. C'est vrai qu'en même temps, c'est une industrie qui parfois il y a des délais par contrôle aérien ou par météo. Ce qu'on a fait, plus spécifiquement, c'est qu'on a encore avancé l'arrivage de tous nos vols pour être sûr qu'il y a suffisamment de temps extra pour compenser ce type de choses. Donc finalement, notre engagement, ce serait que, sauf pour des motifs vraiment exceptionnels qui ne devraient arriver presque jamais, si l'été 22 était déjà beaucoup mieux que 21, que 23, c'est encore mieux, et on finisse cette route tous ensemble pour que ça soit vraiment un très bon bilan entre les développements des connexions, d'augmenter la connectivité des territoires et la qualité des vies des riverains, qui c'est une des choses plus importantes.
Arriver à concilier compagnie aérienne et tranquillité des riverains, un défi loin d'être évident. On verra si l'avenir permettra de concilier les aspirations de notre société et les besoins économiques des sociétés qui l'animent.
Arriver à concilier compagnie aérienne et tranquillité des riverains, un défi loin d'être évident. Simon Marty pour Fidélité Nantes. Merci beaucoup Simon. Je vous dis à la semaine prochaine. Mais toujours concernant la problématique de l'aéroport de Nantes, Saint-Philbert-de-Grandlieu ne servira pas de variable d'ajustement à l'inconséquence de la décision de l'État d'abandonner le transfert de l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Si le maire Stéphane Bauger se réjouit de la fin de l'expérimentation sur la trajectoire de décollage de Nantes Atlantique qui amenait les appareils à survoler son village, il le dit haut et fort, la mobilisation reste entière en attendant la décision définitive de la Direction Générale de l'Aviation Civile sur les futurs couloir aérien, une décision attendue début décembre.
L'Hebdo-Région, initiative.
Mais l'initiative de la semaine va nous obliger à changer notre regard sur les différences. Bonjour Robert Imetro.
Bonjour Thomas.
C'est en ce moment la semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées. C'est donc l'occasion de faire un focus sur les structures adaptées.
En Vendée, les ATCO, par exemple, emploient 1000 personnes en situation de handicap physique ou mental. Elles sont réparties sur 12 sites dans tout notre département. C'est géré par l'association Adapeiaria. L'an dernier, tenez-vous bien, les ateliers ont généré 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ils ne comptent pas s'arrêter là. Félicien Riant est directeur du développement et de la production des ATCO. Il compte développer une nouvelle compétence tournée cette fois vers le numérique.
Dernier travail que nous venons de faire pour les bibliothèques de Vendée, ce sont de traduire des textes compliqués sur certaines œuvres pour les rendre accessibles aux personnes qui vont s'en emparer. Je prends l'exemple des professions de foi pour nos élus. Nous avons, lors des dernières élections, eu le plaisir d'être sollicités par des élus pour rendre leur profession de foi plus facilement accessible pour leurs électeurs. Voilà un type de travail où on a de plus en plus de demandes, puisque que l'on soit dans le culturel pour mieux percevoir une œuvre, dans le politique pour mieux comprendre une profession de foi, dans une entreprise pour mieux comprendre un règlement intérieur, on a mis ce service-là. Et pourquoi est-ce qu'on est plutôt bien placé pour faire ce service-là? C'est que nous, les personnes en situation de handicap qui travaillent dans cet atelier, si elles en ont la compréhension, ça va permettre au plus grand nombre d'en avoir la compréhension.
Et dans les entreprises lambda, comment se passe cette intégration?
Bon, c'est vrai, c'est toujours un peu compliqué. Afin de sensibiliser les chefs d'entreprise à l'emploi des personnes en situation de handicap, une vingtaine d'entre eux a visité cette semaine les ateliers des ATCO à La Roche-sur-Yon. Et même si les structures de moins de 20 salariés n'ont pas d'obligation légale d'embaucher des personnes handicapées, Marie-Agnès Mandin croit que les choses vont changer. Elle est présidente de la Confédération des petites et des moyennes entreprises de Vendée.
On est dans une période, déjà, la RSE, responsabilité sociétale des entreprises. De toute façon, il y a des points à répondre. Et entre autres, moi je dis, c'est pas parce qu'on a moins de 20 salariés qu'on ne s'engage pas. Et c'est peut-être nous qui nous engageons le plus sans le savoir. Et on le fait. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on est aussi avec une rupture de main-d'œuvre. Et très compliquée. Dans les entreprises du bâtiment, dans, partout, dans l'agroalimentaire, partout, vous avez qu'à traverser les rues, vous voyez les routes. Hein, on voit, cherche menuisier, cherche... Voilà. Donc, je pense que c'est toujours dans l'adversité, et c'est dommage d'ailleurs, que c'est toujours dans l'adversité, c'est toujours quand ça va mal, qu'on essaie de rechercher des solutions. Et je pense que ça, mais ça va permettre les vraies rencontres entre le monde de l'entreprise et les ESAT.
Et c'est d'autant plus important que le fait de travailler a un réel impact hein, sur les personnes qui souffrent de handicap. C'est loin d'être juste une question financière. Pierre Blanchard est le président de l'ADAPEI ARIA qui gère les ESAT Côte Vendée. C'est une association fondée par des parents de personnes en situation de handicap.
La valeur travail est fondamentale pour eux, à la fois pour les parents et pour les personnes accompagnées évidemment. Ça donne sens à la vie, ça donne sens à l'activité, à ce qu'on est. Et donc pour toutes ces personnes-là, eh bien, le fait de pouvoir avoir une activité, être au service d'autres, à l'intérieur des aides, avec des capacités qui sont adaptées pour eux, vraiment c'est quelque chose de très important. Ça s'est très nettement vu au moment de la période Covid, où il y a effectivement une diminution de l'activité en cette période-là. Il y a d'ailleurs beaucoup de travailleurs handicapés qui ont été en difficulté à cette période-là, hein, et qui ont, pour laquelle il a fallu reprendre petit à petit cela, parce qu'ils étaient en situation de fragilité à ce moment-là. Et donc il y a tout un travail qui est fait actuellement pour justement continuer ce travail-là.
Et les différentes associations qui regroupent des parents et des personnes en situation de handicap espèrent atteindre 4% d'emplois directs dans le secteur privé d'ici 2024.
Aubéry Métro pour RCF Vendée. Merci beaucoup Aubéry. Dans le reste de l'actualité, le centre hospitalier du Mans déclenche son plan blanc. Une décision prise face au manque de lits pour assurer correctement les hospitalisations des patients en aval du service des urgences adultes. Le plan blanc prévoit l'activation d'une unité temporaire d'hébergement, le report de certaines interventions chirurgicales et le renforcement des transferts de certains patients vers d'autres établissements de santé du territoire.
L'Hebdo-Région, l'actualité religieuse.
Nous partons en direction de la Mayenne, retrouver notre consoeur de Fidélité Mayenne, Isabelle Rupin. Bonjour Isabelle.
Bonjour Thomas.
Alors le réseau des radios Fidélité organisait ce vendredi son traditionnel radiodon. Et vous, Fidélité Mayenne, Isabelle, vous avez lancé une initiative peu banale, celle de confier la radio lors d'une nuit d'adoration ce vendredi soir.
Il semblerait, oui Thomas. L'idée nous en est venue en fait dans un premier temps pour répondre aux soucis financiers de la radio, notamment avec la perspective du passage obligatoire à la radio numérique terrestre, le fameux DAB+, qui engendre des coûts supplémentaires importants. Et puis on s'est dit que confier notre mission, confier les bénévoles, les salariés et les auditeurs, c'était aussi une bonne idée. Je vous laisse écouter ce qu'en dit le président de Radio Fidélité Mayenne, Bruno Hiret.
C'est déjà le moyen de se retrouver encore un petit peu plus tous ensemble sur les ondes de la radio, de prier ensemble, bien sûr. Nous avons besoin de votre aide de toutes les manières qui soient, et déjà par la prière, parce que vous savez que tenir cette radio en vie, c'est vraiment un renouvellement de tous les jours. Donc on a besoin de confier notre radio et les gens qui travaillent et les gens qui donnent bénévolement de leur temps. Ça tient déjà depuis 33 ans et j'espère que ça va tenir encore longtemps et bien après nous.
Et le père Frédéric Fouché, vicaire général en charge de la communication, a rallié cette proposition avec un grand enthousiasme.
C'est vrai qu'intuitivement, une personne n'y aurait pensé. Et c'est grâce à l'Esprit Saint et puis à la disponibilité de tel ou tel que c'est devenu possible. On remerciera jamais assez ceux qui se sont rendus disponibles à cette idée qui peut paraître folle à vue humaine, mais en fait qui est la meilleure des idées. Puisque où est-ce que sont les sources de toute bénédiction? Dans le cœur de Jésus. Et où est-ce qu'on y accède? Le plus facilement, dans l'adoration. Et ça nous permet de vous rappeler que la radio, bien sûr, ben, c'est de la technique, c'est des choses à faire. Mais c'est d'abord une âme qui doit nous porter, nous visiter. Parce qu'à un moment donné, on dit, oh mon Dieu, s'il y a une radio, c'est bien pour toi. Hein, parce qu'on aurait tous autre chose à faire, finalement, par ailleurs. Hein. Donc, dire au Seigneur, ben, on a besoin que tu nous redonnes, pas de l'enthousiasme, parce que je crois qu'ici, il y en a, mais tu nous reguides dans ce que tu attends de nous et que tu nous en donnes tous les moyens.
Cette nuit d'adoration prend tout son sens quand on se rappelle ou pour se rappeler justement que la radio est un outil d'évangélisation.
C'est un outil d'évangélisation. Moi, j'aime bien aussi dire que c'est un outil de communion parce que ça met beaucoup de gens en relation. C'est de l'évangélisation, c'est de la communion, c'est de la formation, c'est de la prière.
Et puis Thomas, nuit d'adoration dit adoration. Alors précisément, on a redemandé au père Frédéric Fouché le sens du mot adoration.
Le pape Benoît XVI rappelait que le mot adoration, ça veut dire littéralement rester bouche bée d'admiration. L'adoration, c'est d'abord être admiratif de Dieu. Et donc, quand on va adorer, le premier sentiment qui doit nous conquérir, c'est de dire « Waouh, Dieu, il fait tout ça pour nous et pour moi. » Puis l'adoration, c'est une manière de dire à Dieu ben, toute l'affection que nous lui portons. Et puis après, l'adoration, c'est un temps où on demande à Dieu eh ben, de répandre ses grâces sur nous, le laisser répandre en nous tout ce dont nous avons besoin.
Voilà, c'est pourquoi cette nuit d'adoration réunira du monde autour de la radio depuis la messe célébrée à 20h30, suivie de temps donc d'adoration et d'une veillée de prière et de méditation avant la messe de clôture à 6h30. Et pour prendre vraiment la dimension diocésaine, eh bien des prêtres, des religieuses et des religieuses du diocèse ont lu des textes et des prières pour nous aider à méditer tout au long de cette nuit. Et tout cela sera retransmis en direct à la radio pour justement continuer la mission de rejoindre ceux qui sont le plus éloignés et pour se porter mutuellement dans la prière.
Eh bien bravo à Radio Fidélité Mayenne pour cette belle intuition et nous vous souhaitons bien sûr Isabelle une belle nuit ce vendredi.
Merci Thomas, vous serez dans nos prières aussi naturellement, ainsi que tous nos auditeurs.
Vous le serez également Isabelle, je rappelle aussi que RCF organise sa semaine du radiodon, ça sera à partir de lundi.
L'Hebdo-Région, si on sortait.
Et pour fêter ses 50 ans, le Cercle généalogique du Maine et Perche organise un salon ce week-end, les 19 et 20 novembre. Paul-Joseph Bouladou, bonjour.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
Alors c'est une réunion de passionnés qui a lieu ce week-end dans la cité Moncelles.
Oui et non Thomas, ce sont effectivement des passionnés qui sont à l'initiative du salon. Et ils sont rejoints par d'autres cercles venus d'autres régions. Chantal Mariotti, présidente du cercle, nous dévoile le programme et nous présente la richesse des intervenants.
Le salon il va accueillir à peu près 32 cercles généalogiques qui sont basés un peu partout en France. Celui qui est le plus loin est dans l'Aveyron. Et sinon, il y en a beaucoup de la région, mais ça va jusqu'à Tours, Poitiers, la Seine-et-Marne. 32 cercles, ça remplit notre salle cercle, nos deux salles qu'on nous a accordées. Voilà. Et il y aura aussi des conférences qui peuvent être intéressantes pour les visiteurs, parce que nous avons choisi comme thème les moulins de la Sarthe et l'association de sauvegarde des moulins et rivières de la Sarthe sera présente, aura un stand et fera deux conférences, l'après-midi du samedi et l'après-midi du dimanche. Ça, je pense que ça intéresse beaucoup les gens. Dans ce salon, on va répondre aux questions, en fait. Hein. Les gens, souvent, dans les salons, ils viennent avec leurs petits papiers où ils sont bloqués, où ils ont besoin d'aide, et on essaye de voir, même à ceux qui ne sont pas adhérents, du coup, on peut leur donner des réponses.
Et Paul-Joseph, la généalogie a connu un boom ces dernières années.
Oui et non, Thomas. Ce sont effectivement des passionnés qui sont à l'initiative du salon. Et ils sont rejoints par d'autres cercles venus d'autres régions. Chantal Mariotti, présidente du cercle, nous dévoile le programme et nous présente la richesse des intervenants.
Le salon il va accueillir à peu près 32 cercles généalogiques qui sont basés un peu partout en France. Celui qui est le plus loin est dans l'Aveyron. Et sinon, il y en a beaucoup de la région, mais ça va jusqu'à Tours, Poitiers, la Seine-et-Marne. 32 cercles, ça remplit notre salle cercle, nos deux salles qu'on nous a accordées. Voilà. Et il y aura aussi des conférences qui peuvent être intéressantes pour les visiteurs, parce que nous avons choisi comme thème les moulins de la Sarthe. Et l'association de sauvegarde des moulins et rivières de la Sarthe sera présente, aura un stand et fera deux conférences, l'après-midi du samedi et l'après-midi du dimanche. Ça, je pense que ça intéresse beaucoup les gens. Dans ce salon, on va répondre aux questions, en fait. Hein. Les gens, souvent, dans les salons, ils viennent avec leurs petits papiers où ils sont bloqués, où ils ont besoin d'aide, et on essaye de voir même à ceux qui ne sont pas adhérents, du coup, on peut leur donner des réponses.
Paul-Joseph Bouladou pour RCF Sarthe, merci beaucoup pour ces précisions. Et puis, c'est d'ailleurs chez vous aussi, en Sarthe, et on va clore ce magazine sur cette dernière information. information qu'un record de France a été pulvérisé samedi dernier à Mulsanne, celui de la plus grande mosaïque de Lego. L'association Brick Mulsanne a réalisé une fresque de 16 mètres de long, près de 2 mètres de hauteur, soit 202 816 briques de Lego assemblées. Le précédent record était de 150 000 pièces. Voilà, c'est la fin de cette hebdo région des Pays de la Loire qui vous était présentée comme chaque semaine par la rédaction de RCF Anjou en collaboration avec les autres rédactions des radios chrétiennes des Pays de la Loire. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite un excellent week-end.